Henri de Régnier, le regret. Alors, monsieur Carlonsi, c'est bien convenu. Vous m'enverrez l'objet par petite vitesse à Paris, à l'adresse que je vous ai donnée. Pendant que monsieur de Mauléon et le signor Canozzi achevaient leur conversation, la gondole, dans laquelle j'étais déjà allongé, sur le coussin de cuir noir, oscillait vivement entre les palis à la vague produite par le passage d'un vaporetto du grand canal. L'eau, remuée par l'hélice, clapotait. Une démarche de l'escalier, que le flot avait recouverte, ruisselait de toutes ces petites algues mouillées. Au haut de l'escalier, dans l'encadrement de la porte marine, j'apercevais M. de Mauléon et l'antiquaire Carlozzi. De la gondole, ils avaient l'air de danser. Derrière eux, deux statues mythologiques, une flore et une pomone, imitaient leur cadence. Sur la poupe, le gondolier, avec sa longue rame, semblait battre la mesure et maintenait adroitement la barque accostée. Le magasin du signore Carlozzi est un des mieux fournis de Venise en curiosités de toutes sortes. Dans les vastes salles du palais que le signore Carlozzi occupe à San Stae, s'entassent les objets les plus disparates. Certes, toutes les antiquités que vous propose l'honnête Carlozzi ne sont peut-être pas absolument antiques, mais il faut apporter quelques précautions au choix que l'on y fait. Mais, ces réserves établies, il est certain que l'on rencontre chez Carlozzi d'agréables occasions. J'y ai vu souvent de beaux morceaux d'étoffes anciennes, des verreries qui présentaient de réelles présomptions d'authenticité. J'y ai acheté quelques-uns de ces vases en faïence blanche de Bassano ou d'Udine qui font de si jolis bouquets. Carlozzi tient aussi des tableaux, des dessins et des gravures, ainsi que 1000 brimborions amusants, tels que coffrets et plateaux de laque, de ces laques à figure chinoise que les Vénitiens fabriquèrent au XVIIIe siècle et dont ils revêtirent des mobiliers entiers. Carlozzi a une spécialité de ces meubles laqués, si joliment décoratifs en leur charmant mauvais goût, en leur attrait baroque et exotique. C'est pourquoi, à chacun de mes séjours à Venise, je ne manquerai pour rien au monde d'aller faire un tour chez Carlozzi, dans l'espoir de découvrir quelques-unes de ces chinoiseries vénitiennes, à la tentation desquelles je ne sais guère résister. J'étais donc venu ce jour-là chez Carlozzi en vue de quelques trouvailles. La saison des étrangers n'était pas encore commencée. Aussi le magasin de l'antiquaire était-il à peu près désert. J'avais déjà fureté ça et là, quand au seuil d'une des salles, je m'étais trouvé face à face avec M. de Mauléon. Je le connaissais pour l'avoir quelquefois rencontré dans le monde, et je l'avais croisé l'autre soir sous les procuraties. Nous étions salués sans nous parler, mais cette fois le hasard nous mettait en présence de telle sorte que nous ne pouvions dispenser d'échanger quelques paroles. M. de Mauléon, d'ailleurs, m'était sympathique. C'est un homme d'une quarantaine d'années, d'aspect distingué, de tournure élégante, avec quelque chose en lui de nonchalant et de désabusé. Après avoir causé pendant quelques instants, nous avions continué de conserve notre visite à travers les galeries du Bon Carlozzi. Je n'y avais rien trouvé à ma convenance, lorsque, dans un recoin, je remarquai un de ces meubles de laque que je recherche volontiers. C'était une vitrine laquée de rouge et toute peinte d'extravagants et de méticuleux chinois d'or. Je m'étais tourné vers le signore Carlozzi pour en savoir le prix, lorsque je m'étais senti saisir au bras par M. de Mauléon. Cette familiarité subite m'avait étonné, et j'avais regardé M. de Mauléon avec une surprise qu'avait augmenté celle de le voir soudain fort pâle. Sa voix tremblait en me demandant si cela ne me contrarierait pas beaucoup de le laisser acquérir cette vitrine. Il y avait dans sa requête un accent d'anxiété qui avait décidé de ma réponse. Je ne songeais pas au reste nullement à acheter l'objet en question. Je connaissais les prix de Carlotti et mes ressources du moment ne me rendaient pas une pareille folie. Je ne m'étais pas trompé sur ce dernier point, mais M. de Mauléon n'avait fait aucune objection aux prétentions exagérées de l'antiquaire. L'affaire conclue, il s'était approché de moi en me disant: Je vous dois, monsieur, quelques explications sur l'incorrection que je viens de commettre. Je vous les donnerai, si vous voulez bien accepter une place dans ma gondole, qui nous conduira où vous souhaiterez d'aller. Monsieur de Mauléon venait de prendre place à côté de moi. Le gondolier dégagea sa barque des palis et s'éloigna environ de l'escalier du haut duquel le signore Carlozzi nous adressait ses derniers saluts. Monsieur de Mauléon demeura un instant silencieux. Avait-il oublié sa promesse de tout à l'heure? Cherchait-il une entrée en matière? Et tout à coup, il se décida. Je ne sais pas, monsieur, si ailleurs qu'à Venise, j'oserais vous dire ce que je vais vous confier, mais il me semble qu'ici, dans cette ville chimérique et insolite, on est quelque peu en dehors des conventions. Je l'ai bien prouvé en agissant avec vous comme je l'ai fait. Mais je suis sûr que vous me comprendrez et que vous m'excuserez. Je fis un signe d'assentiment et d'attention. Monsieur de Mauléon continua. Il y a un moment dans la vie, monsieur, où certains événements de notre passé nous apparaissent avec leurs conséquences véritables. Lorsque nous avions cru y échapper, un jour nous nous apercevons enfin de ce qu'ils ont créé d'irréparable. C'est ce sentiment qui m'a ramené à Venise, où je n'étais pas revenu depuis 15 ans. C'est ici que s'est produit un de ces événements auxquels je fais allusion, et dont cette visite chez Carlozzi vient de raviver l'amer souvenir. Il y a 15 ans, j'étais un jeune homme, et un jeune homme jouissant de sa première liberté. Mon père m'avait élevé fort durement. Sa mort venait de me mettre en possession de ma fortune. Désormais, j'étais libre d'agir à ma guise, et ma première initiative fut d'entreprendre un voyage en Italie. Je comptais visiter toute la péninsule, et Venise était naturellement marquée sur mon itinéraire. J'y étais, de plus, appelé par une vieille amie de ma famille, Lady Embington, qui habitait depuis de longues années le palais Alvenigo, devant lequel nous allons passer. Monsieur de Mauléon regarda l'une après l'autre les deux rives du grand canal, puis il reprit. Mon arrivée fut un enchantement. Songez donc à arriver à Venise un soir de printemps, et au lieu de descendre dans un hôtel, être reçu dans une de ces riches demeures vénitiennes comme le palais Alvenigo. Lady Embington l'avait restauré et meublé de beaux vieux meubles. C'était un logis admirable. Je me sentais tout à coup dans un lieu privilégié. Tout me charmait. J'étais ivre de liberté, de lumière, de pittoresque. Ajoutez à cela que la société la plus agréable était réunie chez Lady Embington. Le palais Alvenigo retentissait de frais rires. La nièce de Lady Embington, Lady Howard, et ses trois filles y apportaient une gaieté délicieuse. La seconde des trois filles de Lady Howard était particulièrement exquise. Elle avait 19 ans et s'appelait Mary. Nous fûmes bientôt les meilleures amies du monde. Miss Mary était pleine à la fois de vivacité et de langueur. Sa fine beauté brune était tantôt langoureuse, tantôt passionnée. Elle était l'âme des fréquentes parties de plaisir que nous organisions, car nous menions une véritable existence de Décameron. Ce n'était que promenade en gondole sur la lagune et excursion en terre ferme, à moins que nous nous contentions, après une visite à quelqu'une de ces curiosités de la ville, d'aller goûter dans le beau jardin que Lady Abington possédait dans l'île de la Giudecca. Et ce fut un soir, en nous promenant au clair de lune, dans la grande allée de cyprès du jardin, que je m'aperçus que j'aimais Miss Mary. Cette découverte redoubla ma joie à vivre, d'autant plus que je me rendis compte que Miss Mary partageait le sentiment que j'éprouvais pour elle. Décidément, la destinée me comblait. Je n'avais qu'un mot à dire pour que Miss Mary consentît à lier sa vie à la mienne et à l'embellir de sa délicieuse présence. Aucun obstacle ne s'opposait à mon bonheur. Je n'avais qu'à étendre la main pour le saisir. Et pourquoi donc hésitais-je à prononcer les paroles définitives? Et pourquoi laissais-je passer les jours sans risquer un aveu que je savais devoir être bien accueilli? Peut-être y eut-il dans tout cela un peu de cette fatuité dont les hommes ne sont jamais dépourvus. Peut-être éprouvais-je un secret plaisir à laisser Miss Mary dans l'attente d'un événement que c'était cependant à moi de provoquer. J'étais pourtant résolu à ne point quitter Venise sans emporter la certitude dont j'avais besoin. Mais je remis à la veille de mon départ le moment d'interroger Miss Mary sur ses sentiments à mon égard. Ce soir-là, après dîner, on fit de la musique au Ballet Alvenigo. Lady Howard jouait le Mozart à la perfection. Ce fut pendant qu'elle exécutait dans la galerie sa sonate préférée que j'emmenai Miss Mary dans un petit salon voisin, sous prétexte de lui faire voir une coupe de vieux verre de Venise que Lady Embington avait achetée dans l'après-midi. Cette coupe était renfermée dans une vitrine de laque rouge peinte de chinois d'or. Mais Mary et moi, nous étions debout l'un devant l'autre. J'étais ému et elle était troublée. Je n'avais qu'à prendre sa main et à la porter à mes lèvres, elle aurait compris. Pourquoi ne l'ai-je pas fait? Pourquoi la pensée me vint-elle soudain qu'il valait mieux, une fois parti, écrire à Miss Mary? Encore aujourd'hui, je ne puis m'expliquer la raison de ce revirement inutile. Fût-ce timidité inconsciente, fût-ce un effet de cette fatuité de jeune homme dont je vous parlais? Toujours est-il que je quittais Venise le lendemain matin, sans avoir revu Miss Mary autrement qu'en présence de Lady Embington, de sa mère et de ses sœurs au moment des adieux. Mais à peine arrivé à Rome, j'écrivis à la jeune fille une lettre où je lui avouais tout mon amour. Je ne reçus pas de réponse. À Naples, je tombai malade et de retour à Paris, j'appris les fiançailles de Miss Mary avec le comte Cantarini, qui avait été un des assidus de nos parties de gondole et de nos goûters dans le jardin de la Giudecca. Plus tard, je sus par Lady Embington que ma lettre de Rome n'était jamais parvenue à son adresse. Monsieur de Mauléon se tut un instant, puis il reprit. Le temps a passé, monsieur, depuis les faits que je vous raconte. J'ai vécu et j'ai vieilli. J'ai aimé, oh, je n'ai pas le droit de me plaindre de l'existence. Je peux même dire à la rigueur que j'étais heureux, et cependant, il a manqué quelque chose à ma vie. Je n'ai pas connu ce mystérieux bonheur que donne l'amour d'un être jeune, d'un être pur. Je n'ai pas retrouvé une autre Miss Mary. Je n'ai jamais porté à mes lèvres la belle coupe d'amour, transparente et fraîche, pareille à la verrerie de la vitrine rouge, de cette vitrine que je viens justement de vous demander de me laisser acheter chez Carlozzi, et qui est celle-même qui ornait jadis le petit salon du palais Alvenigo. Oui, on a dû la vendre avec le reste du mobilier et des collections, il y a 5 ans à la mort de Lady Embington. Quant au palais, je ne sais pas à qui il appartient à présent. Le cri rauque et mélancolique du gondolier interrompit M. de Mauléon. La gondole quittait le grand canal, tournait l'angle d'un petit rio et s'enfonçait dans son ombre longue.